Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette, pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Aujourd'hui, je vous parle d'art martial, le karaté plus spécifiquement, qui peut être, comme vous vous en doutez, assez bénéfique pour la santé. De manière générale, le karaté, ça va aider la coordination, l'équilibre. Ça aide hein, à canaliser la concentration, à canaliser aussi l'énergie. Et chez l'enfant, ça a aussi de nombreux bienfaits, ça permet la précision des gestes. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avec le karaté, d'autres sports également, on apprend à perdre, on apprend à gagner, on apprend les règles du jeu, à respecter les consignes. Il y a aussi dans le karaté le travail à deux, qui est assez récurrent, le travail en groupe. Et ça, ça nous permet de favoriser les habiletés sociales. Et en ce sens, le karaté peut bénéficier à des enfants qui vivent avec l'autisme. En deuxième partie d'émission, Ben Valkenburg, vice-président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, sera là. Il est également papa d'un garçon qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Il pourra nous parler davantage des bénéfices du karaté. Et puis, tout d'abord, vous parlez d'une sortie de livre plutôt récente chez Québec Amérique qui s'intitule « Ma vie est une série BIP ». C'est un récit de Lynn Langlois, un récit, comme vous allez le découvrir, assez courageux, en fait très courageux, très intime. Elle y parle dans ce bouquin, Lynn Langlois, de son quotidien avec la maladie bipolaire. Je la rencontre à l'instant. Lynn Langlois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Je vous ai dit tout à l'heure, j'espère être à votre hauteur parce que ce livre-là est extrêmement courageux, extrêmement intime. Vous y parlez de tout, tout y passe, là, 300 quelques pages. Vos tentatives de suicide, 3, presque 4, vos nombreuses hospitalisations et vous n'avez pas de tabou, vous n'avez pas peur des mots. Vous vous qualifiez vous-même de malade mentale. Vous n'avez peur de rien, Lynn Langlois.
Non, pas du tout. Ben, oui, d'une certaine façon, j'avais la frousse de mettre ce livre-là sur le marché, mais toutefois, je crois que c'était vraiment important. Pour les autres personnes atteintes de maladies mentales, qui, à quelque part, sont la plupart du temps seules avec leurs problèmes, et pour leur dire que non, c'est pas facile, que oui, on peut s'affirmer en tant que personne atteinte de maladie mentale et que, je ne sais pas, courageux aussi dans le sens que je voulais prendre, hein, c'est une prise de parole en tant que personne atteinte de maladie mentale, une malade mentale, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas,
parce que
quelque
vous dites
part.
Souvent, dans notre société, on fait attention aux mots « trouble bipolaire »,« trouble de santé mentale ». Et ça vous dérange beaucoup.
Oui, ça me dérange beaucoup parce qu'on prend beaucoup de détours, quelque part, pour nommer la chose, pour la rendre plus agréable ou plus facile.
Politiquement correct.
Exactement, tout à fait, c'est ça, politiquement correct. Et d'ailleurs, quand on parle d'hôpital en santé mentale, c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a aucun autre département à l'hôpital où on va dire santé, le département en santé cardiaque, le département en santé oncologique, non.
C'est vrai.
C'est incroyable. Et puis, il n'y a personne dans santé, quand on appelle à l'hôpital ou quand on est dans un centre de santé mentale, il n'y a personne en santé, là. Alors, je ne comprends pas cette appellation-là.
Oui, et vous le dites dans votre livre, et vous dites que vous préférez parler tout simplement de maladie mentale.
Tout à fait. Et même si, dernièrement, on ne parle plus de maladie mentale, mais on parle de troubles, hein? De troubles bipolaires, de troubles de l'affect, de troubles, ce sont une série de troubles qu'on nous présente parce qu'on n'a pas trouvé la cause de ces qu'on appelait auparavant maladie. Donc, à partir de ce moment-là, si on n'a pas la cause du problème, on n'a pas de traitement.
Ouais.
Donc, on ne peut pas appeler ça une maladie à traiter.
Ouais, et ça, on le comprend dans votre livre, et c'est intéressant pour des gens qui n'ont pas, comme moi, qui n'ont pas côtoyé de près la maladie mentale, ni dans ma vie, ni dans celle d'un proche, de voir à quel point ça peut être difficile de cibler. Vous avez rencontré plusieurs médecins, ça a pris du temps avant d'avoir un diagnostic. La médication, ça semble extrêmement difficile à cibler aussi. C'est une frustration un petit peu aussi, une fatigue qui s'installe.
Bien, il y a une fatigue et puis je pense qu'il y a une intolérance qui s'installe par rapport aux molécules chimiques. Parce que ça, je veux dire, oui, c'est pour traiter à quelque part un dysfonctionnement dans le cerveau. Toutefois, ça a un impact sur le corps en entier.
Oui.
Hein? Je veux dire, c'est des molécules chimiques assez puissantes là, qui interviennent dans les différentes échanges moléculaires du corps, hein, les hormones, tout le système nerveux est sollicité par ces médicaments-là.
Et vous le dites, vos reins ne sont plus très, très efficaces. Donc, la bipolarité, en plus d'avoir un impact sur, bien sûr, la santé mentale, a un impact sur la santé physique.
Tout à fait. Tout à fait. Avec médication ou sans médication. À la longue, le corps s'use parce que c'est une maladie exigeante à vivre d'un point de vue neurologique. Hein? Donc, moi, j'ai une insuffisance rénale. Maintenant, mes reins vont mieux. Mais c'est causé directement par le médicament que j'ai pris pendant longtemps, qui est le lithium. Et puis là, on devait absolument arrêter ce médicament-là, qui n'était pas parfait, c'est vrai, mais qui quand même, on pourrait dire, atténuait les courbes de ce trouble de comportement-là chez moi.
Et on va en parler de ça parce qu'il y a peut-être des gens à la maison qui nous écoutent et qui se disent « OK, trouble bipolaire, c'est une maladie mentale, qu'est-ce que c'est? » On l'a dit tout à l'heure, Lynn, difficile à diagnostiquer, extrêmement complexe. Vous vivez avec la bipolarité de type 2. C'est quoi les caractéristiques de tout ça?
Bon, le type 2, c'est différent du type 1 parce qu'il y a un type 1 où les manies sont franches.
Okay.
C'est-à-dire que une manie franche, c'est bien souvent perte de contact avec la réalité. Ou est-ce qu'il y a des grands ailes où on devient quelque part très...
Comme super puissant, super héros.
Super puissant, super héros. On n'a plus de limites. On peut se promener nu l'hiver.
Dépenser
sur la rue.
Notre compte en banque
tout
au complet.
Tout à fait. Il n'y a plus rien qui nous fait rien. Mm-hmm. Hein? Et on se sent investi d'un grand pouvoir.
Invincible.
Oui, invincible, tout à fait. Et bien sûr, il y a les dépressions. Mais dans un cas de manie 1, les manies sont très fortes et les dépressions peuvent être très fortes ou non.
Okay.
C'est ça qui fait aussi la différence. On peut avoir de grandes périodes maniaques et de petites périodes dépressives ou le contraire.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pour la 2, il n'y a pas de manie franche. On appelle ça de l'hypomanie. C'est comme juste en dessous de la manie.
Okay.
Je ne perds pas contact avec la réalité, mais je deviens hyper performante.
Mm-hmm.
Tout va vite.
Tout
va bien. Je suis vraiment efficace. Je suis efficace.
Efficiente, voilà.
Efficiente, plus besoin de manger, plus besoin de dormir. Ça fonctionne pareil, etc.
Mais est-ce qu'il y a quand même la phase de dépression avec le type 2?
Oui. Et dans mon cas, c'est des dépressions majeures.
OK.
Des dépressions profondes. Alors, ce qui se passe avec le... Comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement comme ça pour tous les bipolaires de type 2. Il n'y a pas nécessairement de dépression profonde. Mais à la longue, je veux dire, le médicament que je prends, à quelque part les médicaments, puis j'en ai plusieurs maintenant... peuvent atténuer cela. Mais le suivi psychiatrique est d'autant plus important.
Ouais. Et ça, dans le livre, vous le décriez à quelque part. Je vous disais tout à l'heure, Lynn Langlois, avant d'ouvrir les micros, vous m'avez dit comment vous avez trouvé ça. Et je vous ai dit, en toute honnêteté, j'ai trouvé ça dur. Dur parce qu'il y a beaucoup de colère à travers le livre. Cette colère envers le système de la santé qui est difficile à soutenir, la difficulté, pardon, à soutenir la maladie mentale et les gens qui vivent avec.
Oui, il y a de la frustration. Il y a de la frustration parce que c'est pas parce que moi, je veux pas m'occuper de ma maladie, là. Je fais tout ce que je peux, je fais tout ce que je veux pour être mieux. Ouais. Je fais En tout cas, j'utilise les moyens qui sont mis à ma disposition. Toutefois, les réponses à cette demande d'aide-là ne sont pas efficaces,
oui.
Mais vraiment pas efficaces. Et c'est... Pourquoi? C'est difficile, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Je ne peux que partager mon expérience,
ben oui,
par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Moi, des bipolaires, tout à coup, leur vie va super bien depuis qu'ils prennent leur pilule. J'en ai jamais rencontré.
Mm-hmm.
Jamais.
La maladie est toujours là, pas loin, là.
Oui, la maladie est toujours là. Et puis, on ne peut pas, comment je pourrais dire ça, la mettre de côté. Jamais. On a à organiser notre vie, on a organisé notre routine afin de pouvoir vivre bien avec elle et de pouvoir justement se prémunir des difficultés qu'elle nous apporte dans notre quotidien.
Ouais. Justement, si vous aviez des trucs ou des conseils à donner, à savoir comment on peut apprivoiser un tout petit peu au quotidien cette maladie-là et faire avec dans notre vie.
C'est ça, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que il n'y a pas une personne pareille qui est atteinte de la maladie mentale, de la bipolarité. Parce que cette maladie-là, elle atteint les états d'âme, on pourrait dire ça, là, en gros. C'est le comportement. On a les high, on a les down.
Mm-hmm.
On va limiter ça à ça. Mais la personne qui est affectée par la maladie, elle a sa propre personnalité, ses propres goûts, ses propres aptitudes,
sa propre réalité, le boulot, les enfants.
Exactement. Donc, à quelque part, il n'y en a pas une recette pour vivre bien à cette maladie-là. Si j'y en avais une, je serais la première, je pense, à la diffuser très fortement. Mais, à quelque part, oui, il n'y en a pas de miracle. Mais je pense que s'il y a quelque chose à faire, en attendant qu'on trouve les médicaments appropriés
et
l'origine
causes,
de la maladie, c'est le milieu hospitalier pourrait, à quelque part, être plus approprié et adéquat pour recevoir et encadrer ce type de malade-là.
Oui.
Et ça, je pense que c'est possible et qu'on peut intervenir là-dessus.
Oui. Parce que ce qui se caractérise par votre histoire, Lynn Langlois, c'est que des médecins, vous en avez vu plusieurs, vous ont suivi, et là, ils se relançaient un petit peu la balle, certains parfois désertaient pour congé, retraite, et là, oh, on arrive avec un nouveau qui reprend tout de zéro, et ça, ben, c'est pas toujours un avantage, là.
Non, surtout pas quand t'es atteint d'une maladie mentale où l'encadrement et le suivi est très important.
Oui.
Ce sont des maladies affectives, hein? Donc, on a besoin, en tout cas moi, d'être sécurisé et encadré et d'être soutenu dans la prise en charge justement de ce mal-là qui fait en sorte que moi, je n'ai pas toujours le contrôle sur cette maladie-là.
Ouais.
Hein? Et oui, moi, j'ai fréquenté le milieu hospitalier, ça fait longtemps, ça fait au moins 25 ans.
Ouais.
Et malheureusement, je dois admettre qu'il n'y a pas eu d'évolution. Et je dirais même que c'est pas pire, mais presque.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a une distance qui se crée entre l'intervenant et le malade. Parce qu'à quelque part, on veut se protéger, ou je sais pas, on veut voir seulement le cas, et non pas une personne qui est aux prises avec un problème de comportement.
Et qui est unique.
Et qui est unique. C'est une personne unique, avec justement tout sa personnalité, ses besoins, son encadrement, sa famille, etc. Voilà. Donc, il n'y en a pas une recette.
Lynn Langlois, en terminant, je ne peux vous empêcher de vous poser une question qui est peut-être difficile. Votre père était bipolaire, le frère aussi l'était également, d'autres membres de votre famille, vous avez 3 fils. Est-ce que parfois vous craignez pour eux, pour leur santé?
Tout à fait. Moi, j'ai, dès le départ, quand ils étaient tout petits, tout ça, j'étais inquiète. Je voulais pas leur transmettre cette maladie-là. Et je me suis beaucoup informée, je me suis inquiétée énormément et j'ai demandé des réponses aux différents spécialistes en psychiatrie ou en santé mentale, si on veut être gentil. Et il n'y en a pas de réponse. Il y en a pas, ça l'a fluctué avec le temps. On pourrait parler de 1 sur 5 dans la famille, ou etc. Il n'y en a pas de réponse. Mais c'est certain que chez moi, c'est une préoccupation. Et je fais... OK, on pourrait parler d'hérédité de la maladie, mais aussi, je pense que c'est important d'informer les enfants et de ne pas le dramatiser, hein, la déprime qui arrive, ou, mais de leur donner de l'information, de leur faire voir leurs moyens, de voir aussi que juste de se rendre compte que ça ne va pas bien, mm-hmm. hein, c'est quelque chose, mais on n'est pas obligé de rester... on peut la prendre en charge.
Oui, voilà.
Cette douleur-là.
Pas rester démuni.
C'est ça, ce désordre, et que la vulnérabilité fait partie de la vie.
Ouais.
On est des êtres sensibles, vulnérables et fébriles, et c'est tout. C'est la vie, c'est être vivant.
Lynn Langlois, vous êtes extrêmement inspirante. Je rappelle, votre livre s'appelle « Ma vie est une série BIP ». C'est publié chez Québec Amérique. Merci beaucoup pour ce grand acte de courage.
Merci à vous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Ben Valkenburg, désolée, je ne veux pas du tout abîmer votre nom de famille, mais vous me dites, ah, j'ai tout entendu. Donc, Ben Valkenburg, bonjour, vous êtes président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, également assistant entraîneur de karaté et parent d'un petit garçon qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Merci d'être là. Alors, karaté, qui permet à des jeunes autistes de pratiquer le karaté pour que ce soit adapté à leurs besoins, ça repose sur une méthode particulière qui s'appelle la méthode TEACH. Mm-hmm. Ça signifie quoi? En fait, c'est quoi les caractéristiques de cette méthode-là?
En fait, la méthode... Merci, madame. Je suis content d'être ici. D'ailleurs, mon fils est plus très petit. Il a 16 ans.
Ah, donc, il a 16 ans. C'est un ado.
Oui, exactement. La méthode TEACH, en fait, c'est une méthode qui est reconnue dans le milieu de l'éducation pour des enfants autistes. Et il a été repris par un psychoéducateur, M. Jalassi, qui est à la base du karaté, de l'adaptation, donc le karaté pour des enfants autistes. Il a fait un diplôme d'études supérieures spécialisées sur le sujet. Et en 2007, il a commencé à partir de son club de karaté. Lui, entre guillemets, il est venu de Tunisie, et champion, ancien champion de Tunisie mm-hmm. en karaté. Et il commençait à utiliser cette méthode pour des enfants autistes, pour adapter le karaté.
Mm-hmm.
Je dis ça tranquillement, mais c'est tout un mouvement. Mm-hmm. Habituellement, le karaté demande que le pratiquant de karaté s'adapte
oui.
à des anciennes règles, à oui. une discipline martiale assez sévère. Et là, M. Jalassi a pris l'audace de changer ça, de dire non, on a des enfants qui sont intéressés au karaté. Ils n'ont pas accès souvent à d'autres types d'arts martiaux non plus à cause de leurs limitations. Et il a adapté. Donc, il travaille beaucoup avec de motiver des jeunes initiés à des arts martiaux qui sont quand même, surtout les garçons, sont assez intéressés à l'aspect cet aspect de la vie. C'est déjà un intérêt intrinsèque. Ouais. Et à partir de 2012, là, le mouvement a commencé. Il y a des parents très impliqués qui voulaient que ça allait plus loin. Et il accompagnait leur enfant dans les cours, mm-hmm. Apprenait comme ça aussi le karaté. M. Zolas a compris que ça prenait un deuxième cours à côté pour des adultes, pour avancer dans la matière de karaté et dans la matière d'accompagner pas juste leurs propres enfants, mais aussi des autres enfants. Et de là est né en fait le programme aussi pour, comme j'ai suivi, pour devenir assistant entraîneur et qu'on mène des groupes d'autistes, souvent avec beaucoup d'assistance, d'aide des parents.
Et de quelle façon on peut adapter le karaté pour qu'il soit accessible à ces jeunes-là qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme? C'est quoi les changements que l'on apporte?
On va bien sûr très lente. On essaye d'impliquer les parents pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce que c'est le besoin particulier de leurs jeunes. Parce que quand on applique, explique le karaté, le mouvement, qui sont souvent, on reste dans c'est ce qu'on appelle des katas, des figures de style. Et c'est quelque chose qu'on fait à répétition. Même en tant que, je fais maintenant plusieurs années, le karaté, même des ceintures avancées, ils ont toujours un intérêt à refaire à chaque fois de nouveau, le premier kata qui est relativement simple, mais on le perfectionne toujours. Et cette répétition est un élément très important pour des enfants autistes, ouais. Parce qu'ils connaissent, ils refaient, ça les sécurise.
Le besoin de la routine aussi.
La routine, exact. C'est la répétition qui fait souvent la magie derrière, chaque fois ça le rassure. Et ouais. C'est quelque chose qu'on est juste en compétition à ce moment-là avec nous-mêmes.
Oui, voilà. Ouais. Et quels sont les bienfaits pour leur santé? Est-ce que vous voyez des améliorations?
Oui, absolument. Il y a donc il y a plusieurs. C'est la motricité globale qu'on travaille, l'estime de soi, parce qu'il réalise qu'il avance. Il n'y a pas cet élément compétitif qui est souvent décrocheur dans d'autres sports d'équipe ou d'autres sports qui demandent plus un effort. Les enfants se dépassent pareil, mais par eux-mêmes, à leur rythme et avec un accompagnement qui
sans toujours... comparaison aussi. Oui.
Sans comparaison, oui. Exact. Exact. Oui. On se critique pas entre nous. Aussi, la concentration augmente. Parce que dans le karaté, vous comprenez, c'est quand même un art martiaux, même si on n'accepte pas des élèves nécessairement à ce qu'on appelle le comité, donc le combat. On utilise quand même des petits incitatifs pour savoir, tu sais, un blocage, par exemple, pour protéger le visage. On fait une petite simulation. On va juste très tranquillement approcher notre main pour indiquer, mais maintenant, il faut faire une défense. Et ils comprennent. Ça compte autant pour des enfants autistes qui ont la difficulté d'être en contact physique, parce que ça, ce sont des éléments importants de comprendre aussi des parents, est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça ou pas, parce qu'il y en a c'est pas généralisé, hein, pendant parmi des enfants autistes, que, tu sais, le toucher, c'est comme des fois,
certains sont à l'aise, d'autres moins.
Ouais. Exact. Ouais. Donc ça, c'est important. Et c'est un élément qui est une forte initiative de bien faire la technique et comprendre pourquoi.
Ben Valkenburg, les parents, vous le disiez tout à l'heure, sont très impliqués chez Karated. Mm-hmm. J'imagine que la connaissance de leurs enfants peut bénéficier aux entraîneurs parce qu'ils sont les experts de leurs enfants.
Oui, exact. Même ça arrive que j'assiste à un entraînement qui avec de nouveaux élèves. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui ne veut pas rester avec le cours dans la première session et il commence à courir. Et à ce moment-là, c'est très important que tu comprennes les parents. Est-ce que je laisse aller et il va revenir tout seul parce qu'il trouve ça intéressant? Ou est-ce qu'on va essayer un extra effort, on va faire un extra effort pour lui ramener, disons. Ça, c'est les parents qui souvent plus, tu sais, il a l'expérience avec l'enfant.
Oui, qu'est-ce voilà. qui marche. Et ça peut, bon, bien sûr, bénéficier bon, à l'entraîneur, comme je le disais, mais à l'enfant aussi, et à son développement, à son mieux-être au sein même. Donc, les parents ouais. sont encouragés à rester pendant le cours.
Absolument, absolument. Mais comme je dis, on s'adapte à la situation particulière. Il y a des jeunes élèves qui sont avec nous pendant plusieurs années et atteignent un degré d'autonomie important. Donc, les parents ne viennent même pas au cours. Mm-hmm. Il y a d'autres qui atteignent l'autonomie, mais les parents insistent à ouais. être là et de participer dans le processus. Il y a aussi des parents qui, dès le début, sur leur présence est quand même important, apprécié. Et il ne faut pas oublier que c'est un loisir aussi qui permet de partager le sport entre parents et enfants. Et ça, c'est un atout important. Ouais.
Est-ce que tous les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme peuvent accéder ou du moins assister au cours Karatéd ou, bon, pour certains enfants, ça ne serait pas approprié?
Pour vrai dire, depuis qu'on existe, on a eu des enfants qui sont venus, qui sont restés ou pas. Mais personnellement, en tant qu'entraîneur et avec le club, on n'a pas vu encore des élèves qui avec qui ça marche vraiment pas.
Mm-hmm. Avec qui c'est pas possible.
Exact. On a sans doute il y a un niveau d'autisme peut-être qui pas avec lequel on peut-être pas travaillé. Mm. Mais on ne l'a pas rencontré encore.
Est-ce que certains enfants neurotypiques peuvent assister au cours de Karatéd? Est-ce que ça s'est déjà observé?
Oui, je pense qu'on a plusieurs élèves. Pour donner un exemple, on a des élèves maintenant que j'ai vus des très jeunes qui sont non-verbales, qui ne s'expriment pas. Mm-hmm. Et le karaté, c'est beaucoup avec des gestes, avec des oui. consignes, mais souvent avec des gestes qui sont juste à répéter et ça marche. Ça paraît pas nécessairement que ces enfants sont non-verbales, par
mm-hmm,
exemple.
Mm-hmm. Pour en savoir davantage, on peut aller sur le site dadamacanada.org.
Oui.
Et puis, est-ce que votre fils fait encore du karaté, Ben?
À l'occasion, mais il développe. C'est bien à dire aussi, il développe des autres intérêts à travers, parce que la socialisation qui se passe aussi au sein du club, on a toujours un moment après qu'on fait une activité de loisir plus ludique, avec un moment très important qu'on fait un souhait. Et mon fils, à travers ça, il développait une aisance sociale aussi qui permet maintenant qu'il fait d'autres choses.
On le salue alors. Ouais. Ben Valkenburg, vice-président de l'Association de développement des arts martiaux adaptés, également assistant entraîneur chez Karatéd. Merci beaucoup de votre passage en studio.
Merci beaucoup à vous.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On vous souhaite un très beau long week-end de 3 jours. Portez-vous bien. On se retrouve mardi. Bye-bye.